Chaque année, à la fin du mois de novembre, il y a un rituel que je dois accomplir. Je me lève un jour, à 5 heures du matin, je prends le métro jusqu'au centre-ville, je vais me tenir debout, dans la pluie et dans le froid, avec 300 autres personnes devant la préfecture. Avec une grande détermination, je me concentre sur le prix qui m'attend au bout, une nouvelle carte de séjour pour que je puisse rester en France. Dans la queue, personne n'est content. Il y a toujours des gens qui se disputent, parfois qui se bagarrent, et des fois la police doit intervenir. Mais moi, j'essaie d'ignorer tout ça. J'essaie d'ignorer les enfants qui pleurent. J'essaie d'ignorer le froid. J'essaie même d'ignorer les gens qui doublent la queue. J'ai un but, un seul, c'est de récupérer un ticket d'attente avant qu'il n'en reste plus et ensuite de déposer ma demande de renouvellement de titre de séjour. Après une longue attente, la porte s'ouvre finalement et la queue se met à bouger. Et j'entre dans un lieu où toute logique a disparu. La queue devient deux queues. Puis, elle se transforme de nouveau en une queue, sans explication. C'est comme dans le livre La Divine Comédie de Dante, peut-être vous connaissez. Je passe d'un cercle de l'enfer à un autre. Ça fait 4 heures depuis mon arrivée. J'ai faim et soif. Pour torturer les gens, il y a un distributeur de snacks à ma droite qui est, comme l'année dernière, hors service. Sur ma gauche, il y a un distributeur de boissons. Mais si je quitte la queue, même pour 30 secondes, je vais perdre ma place. Que faire alors? Il n'y a rien d'autre à faire que de rester dans le troupeau avec les autres animaux. Enfin, une chose s'offre à moi. Une chance s'offre à moi. Après une attente de 6 heures, je reçois un nouveau ticket pour que je puisse attendre un peu plus. Avec ce ticket, je peux entrer finalement dans le lieu saint où je vais attendre mon tour pour déposer mon dossier. Mais dans cette salle, il y a de nouvelles formes de tourment. Il y a 40 places assises, mais il y a 200 personnes dans la salle. Et encore une fois, je reste debout dans un coin. La seule chose à faire pour m'amuser, c'est de lancer des boulettes de papier aux gens qui patiente. Il est 14 heures maintenant et le prochain numéro à être appelé sera le mien. Voilà, c'est à moi. Je m'approche du guichet, je m'assis et je sors de mon sac à dos 10 kilos de documents qui incluent tous les actes de naissance de tous les membres de ma famille, même ceux de mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et mon chien. Je sors de mon sac à dos tous les bulletins de salaire que j'ai eu depuis que j'ai 5 ans. Je fournis des justificatifs et ensuite d'autres justificatifs qui justifient que les premiers justificatifs sont justes. Et finalement, c'est fait. Je peux maintenant rentrer chez moi avant que le soleil ne se couche. Les horreurs de cette journée ont pris fin en attendant l'année prochaine. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est pour vous montrer, tout simplement, que quand on est citoyen d'un pays, quand on est inclus dans un peuple, on n'a pas ce genre d'obligation, n'est-ce pas? Les citoyens sont déjà en règle dans leur pays. Ils ont déjà les bons documents, avec le tampon de l'État dessus. Les citoyens d'un pays ont des privilèges qui leur sont propres. Le droit de voter, la protection du gouvernement et la sécurité sociale, par exemple. Et de la même manière, quand on est inclus dans la famille de Dieu, on reçoit un certain nombre de privilèges qui vont avec. Quand on est chrétien, on n'est plus compté parmi les étrangers, mais parmi les gens qui portent le tampon, le sceau de l'esprit. Dans l'introduction de l'épître aux Éphésiens, nous avons d'abord étudié le plan du Père qui prévoit le salut des élus. Et nous avons ensuite étudié le sang du Fils qui a accompli le salut des élus. Et aujourd'hui, nous allons étudier les privilèges qui appartiennent aux citoyens du royaume des cieux, à savoir le don de l'Esprit Saint, qui est pour nous un sceau et un gage. On va lire dans un texte, Éphésiens chapitre 1, et on va lire les versets 3 à 14. Donc je vais inviter Christophe de venir lire ce texte. Donc Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
Merci Christophe. Avant de continuer, je vous invite à la prière.
Nous te remercions, Seigneur, pour chaque mot qui continue dans ta parole. Ces mots qui nous exhortent et qui nous instruisent dans la vérité. Que notre étude de ce texte t'apporte tout l'honneur et toute la gloire qui t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen. On va étudier seulement les versets 13 et 14 aujourd'hui, mais j'ai demandé une lecture de les versets 3 à 14 juste pour donner un peu de contexte aussi. Mais quelque chose d'important à noter dans ce texte, c'est le fait que ceux qui reçoivent la parole de la vérité sont par conséquent inclus en Christ. Ça, c'est le sens de la première partie du verset 13. Juste avant, dans les versets 11 et 12, Paul parle en tant que juif. Il dit que nous, les juifs, nous avons reçu le salut en Christ. Mais maintenant, vous aussi, les païens, vous recevez la rédemption par le sang de Jésus. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus des étrangers, mais des citoyens. Et comme des citoyens le sont dans leur propre pays, nous sommes en règle. Nous avons le bon sceau, le bon tampon, qui garantit notre relation à Dieu. Et donc, nous qui sommes membres de la famille de Dieu, citoyens du royaume, nous recevons deux preuves de lien qui nous attache à Dieu. Le texte indique premièrement que l'Esprit nous scelle. L'Esprit nous scelle. Et deuxièmement, que l'Esprit constitue le gage de notre héritage. Premier point, donc, l'Esprit nous scelle. Quand les païens ont entendu et reçu la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, comme dit le texte, ils ont été scellés, tout comme les juifs croyants, par l'Esprit Saint. Dans ce texte, les verbes croire et sceller sont indissociables. La foi d'une personne et le sceau de l'Esprit sont les deux facettes d'un même événement. Et cet événement, c'est le résultat de la rédemption qui a été initiée et accomplie par Dieu. Tout comme les Juifs qui en premier ont reconnu Jésus comme étant le Messie promis, certains païens ont compris que l'Évangile était pour eux aussi. Ils ont été rachetés aussi complètement que les Juifs qui ont été les premiers à croire en Christ. Ils ont été délivrés de la mort, de la destruction, de la ruine. Par l'Évangile, ils sont sauvés. Ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire qui avait été promis depuis longtemps. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Quand Paul emploie l'expression « Vous avez été scellés du Saint-Esprit », il met devant nous un principe très important. Le sceau représente la possession. Ça veut dire que les croyants sont séparés ou mis à part des gens qui rejettent Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 9 par exemple, il y a un passage similaire où Dieu met une marque sur ceux qui sont à lui. Les gens qui ne portent pas cette marque sont désignés comme étant destinés à la destruction à cause de leur péché contre Dieu. De la même manière, le fait d'être scellé du Saint-Esprit veut dire que nous appartenons à Dieu et que nous sommes protégés par Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes plus destinés au jugement. Notre élection par Dieu le Père et notre rédemption par Dieu le Fils sont attestées par le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Un sceau qui nous met à part et qui nous protège contre la colère de Dieu à l'encontre des pécheurs. Vous avez tous entendu parler des cowboys américains, j'imagine, qui parcouraient d'immenses espaces aux États-Unis avec leurs troupeaux de vaches à la recherche de bons pâturages. C'était un travail dangereux où l'on s'exposait aux attaques des hors de la loi et notamment aux voleurs de vaches. Mais pour protéger leurs troupeaux, pour faciliter l'identification des bêtes qui leur appartenaient, les cowboys utilisaient un fer rouge pour marquer le symbole de leur patron sur la fesse de chacune de leurs vaches. Cette marque était un symbole de possession et d'appartenance. Et de la même manière, Dieu nous a marqués au fer rouge, pas sur la fesse, mais sur le cœur. C'est une marque spirituelle. Nous portons le sceau de Dieu qui atteste notre salut, qui nous protège contre diverses attaques. Le sceau de l'Esprit Saint nous protège, par exemple, contre notre propre nature pécheresse. Ça nous protège contre nous-mêmes. Il faut comprendre une chose, c'est que parmi les chrétiens à Éphèse, au 1er siècle, il y avait sûrement des idolâtres, des fornicateurs, des adultères, des homosexuels, des voleurs, des gens pleins d'arrogance, d'amertume, d'orgueil. Comme nous, ces premiers chrétiens n'étaient pas des gens parfaits. Je pense que ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, c'est qu'en tant que croyants, ils ne portent plus le sceau des péchés. Ils ne sont plus identifiés par leur nature pécheresse, mais par leur relation à Dieu en Christ. Depuis leur conversion à Christ, ils portent une nouvelle identité, celle de pécheurs sauvés et transformés par Christ. Si vous êtes chrétien, vous portez sur vous une marque, celle de l'Esprit Saint. Le sceau de l'Esprit vous scelle en Christ. Le sceau de l'Esprit atteste que vous n'êtes plus lié au péché, à la rébellion, aux tentations qui ont pour effet de vous détruire. Si vous êtes chrétien, vous êtes la possession de Dieu. Vous lui appartenez. Donc l'Esprit nous scelle. Mais deuxièmement, l'Esprit constitue aussi le gage de notre héritage. Ça veut dire que Dieu nous a laissé un dépôt, un avant-goût de ce que nous allons recevoir un jour. Le verset 14 dit qu'en Christ, Dieu a versé un acompte à l'église d'Éphèse. Paul emploie ce genre de langage dans d'autres endroits pour expliquer le fait que l'Esprit Saint qui nous a été donné pointe aujourd'hui vers une réalité future.
Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit que le désir que nous avons du ciel et de la présence de Dieu vient du fait que nous sommes déjà au bénéfice d'un acompte de l'Esprit. Ici, au verset 14, Dieu ne nous promet pas simplement d'une récompense future, mais il nous laisse goûter ce trésor dès aujourd'hui. Nous recevons le premier versement maintenant et le reste au ciel. Dans les films policiers, il y a une scène récurrente que vous allez tout de suite reconnaître. On voit un assassin professionnel, très bien habillé, qui s'assit tout seul au fond d'un bar, ou bien dans une belle voiture garée dans un parking souterrain. Puis arrive un homme inconnu, lui aussi très bien habillé, qui rejoint l'assassin. Ils échangent quelques mots et l'homme inconnu sort de son manteau une enveloppe en disant « Tiens, on te donne 10 000 dollars maintenant et le reste une fois que le job est terminé. » Puis l'assassin consent d'un signe de tête, il prend l'enveloppe et le film continue. Vous avez tous vu ce genre de scène dans des films. Le téléspectateur est censé comprendre quelque chose, c'est que le paiement initial constitue la garantie qu'il y aura beaucoup plus d'argent si l'assassin fait son travail. Les 20 000 dollars sont un avant-goût de ce qui vient. C'est la garantie du sérieux de commanditaire qui engage l'assassin. Heureusement, nous ne sommes pas des assassins, j'espère en tout cas, et Dieu n'est pas un chef criminel. Et en fait, cette illustration est vraiment nulle, mais au moins ça peut nous aider à comprendre le fait que Dieu nous donne un gage de notre héritage. Ça, c'est l'idée. Dieu nous donne un gage de notre héritage, un genre d'acompte qui pointe vers une réalité beaucoup plus grande et merveilleuse. Il faut comprendre que le rôle de l'Esprit dans la rédemption des croyants a pour but la gloire de Dieu. Ce gage, ce petit dépôt, on peut dire, de notre héritage entraîne dans la vie des croyants une transformation spirituelle, morale et émotionnelle. Ça veut dire que par l'Esprit, nous devenons conscients de notre péché plus profondément qu'avant. Notre intelligence morale va augmenter afin que nous voyions plus clairement la volonté de Dieu. Nous allons être attirés de plus en plus par la parole de Dieu. L'Esprit va nous corriger et nous redresser pour que la gloire de Dieu devienne plus importante que la nôtre. En fait, nous allons être préparés pour la vie qui vient. Notre vision du monde va être transformée pour que nous commencions à regarder la réalité dans la bonne perspective. Le péché va devenir plus moche à nos yeux et la sainteté plus belle. C'est ça l'avant-goût, le morceau de notre héritage que nous recevons dès aujourd'hui en tant que chrétiens par l'Esprit Saint. Je veux conclure en rappelant simplement que l'Esprit Saint n'est pas juste un sceau qui assure notre future rédemption, mais qu'il joue aussi un rôle actif dès aujourd'hui dans notre vie. Et nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu, mais nous sommes des citoyens scellés par l'Esprit afin de recevoir toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le prologue de l'Épître aux Éphésiens nous rappelle donc que notre Dieu trinitaire est l'auteur, l'inventeur, le concepteur d'un plan parfait pour le salut de ses élus. Les trois études que nous avons faites sur ces 14 premiers versets nous rappellent qu'il n'y a pas de contradiction entre le plan du Père, l'œuvre du Christ et le sceau de l'Esprit. C'est sûr que vous étiez séparés de Dieu par vos péchés. C'est sûr que vous avez lutté contre des tentations dans votre vie chrétienne.
Il y a des chances que vous ayez eu des périodes dans votre vie où vous avez douté de votre salut. Il est possible qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie d'être disciple de Jésus ou que vous préfériez vivre comme le monde. Mais le prologue de cette épître nous rappelle que la Trinité ne fait pas d'erreur dans l'élection, dans la rédemption ou dans la sanctification de son peuple. Le caractère théocentrique de ce texte nous rappelle que notre salut et l'application de ce salut dans notre vie ont pour but de célébrer la gloire de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et si vous êtes chrétien, vous êtes compté parmi les citoyens du ciel. Vous portez le sceau de Dieu et vous êtes destinataire d'un héritage extraordinaire. À Dieu soit la gloire. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ton œuvre qui te glorifie et qui nous sauve. Nous te remercions pour le salut parfait que tu as réalisé et qui a transformé notre cœur insensible. Merci pour l'élection et la rédemption des pécheurs que nous sommes. Et merci pour l'assurance de notre salut qui vient de l'Esprit. Saint-Esprit, nous savons que tu nous aimes parce que tu demeures en nous et parce que tu nous scelles pour le jour de la rédemption. Merci, notre Dieu, pour ton œuvre de grâce en nous. Au nom de Jésus. Amen.